Benjamin Constant, le cahier rouge. Je suis né le 25 octobre 1767 à Lausanne, en Suisse, d'Henriette de Chaudieu, d'une ancienne famille française, réfugiée dans le pays de Vaud pour cause de religion, et de Juste Constant de Rebec, colonel dans un régiment suisse au service de Hollande. Ma mère mourut en couche 8 jours après ma naissance. Le premier gouverneur dont j'ai conservé un souvenir un peu distinct fut un Allemand nommé Stoelin, qui me rouait de coups, puis m'étouffait de caresses pour que je ne me pianisse pas à mon père. Je lui tins toujours fidèlement parole, mais la chose s'étant découverte malgré moi, on le renvoya de la maison. Il avait eu du reste une idée assez ingénieuse, c'était de me faire inventer le grec pour me l'apprendre. C'est-à-dire qu'il me proposa de nous faire à nous deux une langue qui ne serait connue que de nous. Et je me passionnais pour cette idée. Nous formâmes d'abord un alphabet où il introduisit les lettres grecques, puis nous commençâmes un dictionnaire dans lequel chaque mot français était traduit par un mot grec. Tout cela se gravait merveilleusement dans ma tête parce que je m'en croyais l'inventeur. Je savais déjà une foule de mots grecs et je m'occupais de donner à ces mots de ma création des lois générales, c'est-à-dire que j'apprenais la grammaire grecque quand mon précepteur fut chassé. J'étais alors âgé de 5 ans. J'en avais 7 quand mon père m'emmena à Bruxelles où il voulut diriger lui-même mon éducation. Il y renonça bientôt et me donna pour précepteur un Français, M. Delagrange, qui était entré comme chirurgien-major dans son régiment. Ce M. Delagrange faisait profession d'être athée. C'était du reste, on tranquillement se souvient, un homme assez médiocre, fort ignorant et d'une vanité excessive. Il voulut séduire la fille d'un maître de musique chez qui je prenais des leçons. Il eut plusieurs aventures assez scandaleuses. Enfin, il se logea avec moi dans une maison suspecte pour être moins gêné dans ses plaisirs. Mon père arriva furieux de son régiment et M. Delagrange fut chassé. En attendant que j'eusse un autre mentor, mon père me plaça chez mon maître de musique. J'y demeurai quelques mois. Cette famille, que le talent du père avait sorti de la classe la plus commune, me nourrissait, me soignait fort bien, mais ne pouvait rien pour mon éducation. J'avais quelques maîtres dont j'esquivais les leçons, et l'on avait mis à ma disposition un cabinet littéraire du voisinage dans lequel il y avait tous les romans du monde et tous les ouvrages irreligieux alors à la mode. Je lisais 8 à 10 heures par jour tout ce qui me tombait sous la main, depuis les ouvrages de Lamettrie jusqu'aux romans de Crébillon. Ma tête et mes yeux s'en sont ressentis pour toute ma vie. Mon père, qui de temps en temps venait me voir, rencontra un ex-jésuite qui lui proposa de se charger de moi. Cela n'eut pas lieu, je ne sais pourquoi. Mais dans le même temps, un ex-avocat français, qui avait quitté son pays pour d'assez fâcheuses affaires, et qui étant à Bruxelles avec une fille qu'il faisait passer pour sa gouvernante, voulait former un établissement d'éducation, s'offrit et parla si bien que mon père crut avoir trouvé un homme admirable. M. Gobert consentit pour un prix très haut à me prendre chez lui. Il ne me donna que des leçons de latin qu'il savait mal et d'histoire qu'il ne m'enseignait que pour avoir une occasion de me faire copier un ouvrage qu'il avait composé sur cette matière et dont il voulait avoir plusieurs copies. Mais mon écriture était si mauvaise et mon inattention si grande que chaque copie était à recommencer et pendant près d'un an que j'y ai travaillé, j'ai jamais été plus loin que l'avant-propos. M. Gobert, cependant, et sa maîtresse Étant devenu l'objet des propos publics, mon père en fut averti. Il s'ensuivit des scènes dont je fus témoin, et je sortis de chez ce troisième précepteur, convaincu pour la troisième fois que ceux qui étaient chargés de m'instruire et de me corriger étaient de même des hommes très ignorants et très immoraux. Mon père me ramena en Suisse, où je passai quelque temps sous sa seule inspection à sa campagne. Un de ses amis lui ayant parlé d'un Français d'un certain âge qui vivait retiré à la Chaux-de-Fonds près de Neuchâtel et qui passait pour avoir de l'esprit et des connaissances, il prit des informations dont le résultat fut que M. Duplessis, c'était le nom de ce Français, était un moine défroqué qui s'était échappé de son couvent, avait changé de religion et se tenait caché pour n'être pas poursuivi, même en Suisse, par la France. Quoique ces renseignements ne fussent pas très favorables, mon père fit venir M. Duplessis, qui se trouva valoir mieux que sa réputation. Il devint donc mon quatrième précepteur. C'était un homme d'un caractère très faible, mais bon et spirituel. Mon père le prit tout de suite en très grand dédain et ne s'en cacha point avec moi, ce qui était une assez mauvaise préparation pour la relation d'instituteur et d'élève. Monsieur Duplessis remplit ses devoirs du mieux qu'il put et me fit faire assez de progrès. Je passai un peu plus d'un an avec lui, tant en Suisse qu'à Bruxelles et en Hollande. Au bout de ce temps, mon père s'en dégoûta et forma le projet de me placer dans une université d'Angleterre. Monsieur Duplessis nous quitta pour être gouverneur d'un jeune condomal. Malheureusement, ce jeune homme avait une sœur assez belle et très légère dans sa conduite. Elle s'amusa à faire tourner la tête au pauvre moine qui en devint passionnément amoureux. Il cachait son amour parce que ses états et ses 50 ans et sa figure lui donnaient peu d'espérance, lorsqu'il découvrit qu'un perruquier moins vieux et moins laid était plus heureux que lui. Il fit 1 000 folies qu'on traita avec une sévérité impitoyable. Sa tête se perdit et il finit par se brûler la cervelle. Cependant, mon père partit avec moi pour l'Angleterre et après un séjour très court à Londres, il me conduisit à Oxford. Il s'aperçut bientôt que cette université, où les Anglais ne font finir leurs études qu'à 20 ans, ne pouvait contenir un enfant de 13. Il se borna donc à me faire apprendre l'anglais, à faire quelques courses dans les environs pour son amusement, et nous repartîmes au bout de 2 mois avec un jeune anglais qu'on avait recommandé à mon père comme propre à me donner des leçons, sans avoir le titre et les prétentions d'un gouverneur, chose que mon père avait prise en horreur par 4 expériences successives. Mais il en fut de cette cinquième tentative comme des précédentes. À peine M. May fut-il en route avec nous que mon père le trouva ridicule et insupportable. Il me mit dans la confidence de ses impressions, et de la sorte, mon nouveau camarade ne fut plus pour moi qu'un objet de moquerie et de dérision perpétuelle. M. May passa 1 an et demi à nous accompagner en Suisse et en Hollande. Nous séjournâmes assez longtemps dans la petite ville de Gertruydenberg. Là, je devins pour la première fois amoureux. Oui, ce fut la fille du commandant, vieux officier ami de mon père. Je lui écrivais toute la journée de longues lettres que je ne lui remettais pas. Et je partis sans lui avoir déclaré ma passion, qui survécut bien 2 mois à mon départ. Je l'ai revue depuis, et l'idée que je l'avais aimée lui avait laissé un intérêt ou peut-être simplement une curiosité assez vive sur ce qui me regardait. Elle eut une fois le mouvement de me questionner sur mes sentiments pour elle, mais on nous interrompit. Quelque temps après, elle se maria et mourut en couche. Mon père, qui n'aspirait qu'à se débarrasser de M. May, saisit la première occasion de le renvoyer en Angleterre. Nous retournâmes en Suisse, où il eut recours, pour me faire prendre quelques leçons, à M. Bridel, homme assez instruit, mais très pédant et très lourd. Mon père fut bientôt choqué de l'importance, de la familiarité, du mauvais ton de mon nouveau mentor, qu'il m'avait choisi, et dégoûté par tant de saisies inutiles de toute éducation domestique, il se décida à me placer à 14 ans dans une université d'Allemagne. Le margrave d'Ansbach, qui était alors en Suisse, dirigea son choix sur Erlangen. Mon père m'y conduisit et me présenta lui-même à la petite cour de la margrave de Barrett qui y résidait. Elle nous reçut avec tout l'empressement qu'ont les princes qui s'ennuient pour les étrangers qui les amusent. Elle me prit en grande amitié. En effet, comme je disais tout ce qui me passait par la tête, que je me moquais de tout le monde et que je soutenais avec assez d'esprit les opinions les plus biscornues, je devais être, pour une cour allemande, un assez divertissant personnage. Le margrave d'Ansbach me traita de son côté avec la même faveur. Il me donna un titre à sa cour où j'allais jouer au pharaon et faire des dettes de jeu que mon père eut le tort et la bonté de payer. Pendant la première année de mon séjour à cette université, j'étudiais beaucoup, mais je fis en même temps mille extravagances. La vieille margrave me les pardonnait toutes et ne m'en aimait que mieux. Et dans cette petite ville, ma faveur à la cour faisait taire tous ceux qui me jugeaient plus sévèrement. Mais je voulus me donner la gloire d'avoir une maîtresse. Je choisis une fille d'une assez mauvaise réputation et dont la mère avait, dans je ne sais quelle occasion, fait à la margrave je ne sais quelles impertinences. La bizarre de la chose, c'est que d'un côté, je n'aimais pas cette fille, et que de l'autre, elle ne se donna point à moi. Je suis le seul homme, vraisemblablement, auquel elle ait résisté. Mais le plaisir de faire et d'entendre dire que j'entretenais une maîtresse me consolait, et de passer ma vie avec une personne que je n'aimais point, et de ne pas posséder la personne que j'entretenais. La margrave fut très offensée de ma liaison, à laquelle ses représentations ne firent que m'attacher davantage. Ces représentations remplissaient mon but, qui était qu'on parlât de moi. En même temps, la mère de ma prétendue maîtresse, toujours pleine de haine contre la margrave, et flattée de l'espèce de rivalité qui s'était établie entre une princesse et sa fille, ne cessait de me pousser à toutes sortes de procédés offensants contre la cour. Enfin, la margrave perdit patience et me fit défendre de paraître chez elle. Je fus d'abord très affligé de ma disgrâce, et je tentai de reconquérir la faveur que j'avais prise à tâche de perdre, mais je ne réussis pas. Tous ceux que cette faveur avait empêché de dire du mal de moi s'en dédommagèrent. Je fus l'objet d'un soulèvement et d'un blâme général. La colère et l'embarras me firent encore faire quelques sottises. Enfin, mon père, instruit de tout ce qui se passait par la margrave, m'ordonna de le rejoindre à Bruxelles et nous partîmes ensemble pour Édimbourg. Nous arrivâmes dans cette ville le 8 juillet 1783. Mon père y avait d'anciennes connaissances qui nous reçurent avec tout l'empressement de l'amitié et toute l'hospitalité qui caractérise la nation écossaise. Je fus placé chez un professeur de médecine qui tenait des pensionnaires. Mon père ne séjourna que 3 semaines en Écosse. Après son départ, je me mis à l'étude avec une grande ferveur, et alors commença l'année la plus agréable de ma vie. Le travail était à la mode parmi les jeunes gens d'Édimbourg. Ils formaient plusieurs réunions littéraires et philosophiques. Je fus de quelques-unes, et je m'y distinguais comme écrivain et comme orateur, quoique dans une langue étrangère. Je contractai plusieurs liaisons très étroites avec des hommes qui pour la plupart se sont fait connaître en avançant en âge. De ce nombre sont McIntosh, actuellement grand juge à Bombay, Lying, un des meilleurs continuateurs de Robertson, etc. Parmi tous ces jeunes gens, celui qui semblait promettre le plus était le fils d'un marchand de tabac nommé John Wilde. Il avait sur tous ses amis une autorité presque absolue, bien que la plupart lui fussent très supérieurs par la naissance et par la fortune. Ses connaissances étaient immenses. Son ardeur d'étude infatigable et sa conversation brûlante, son caractère excellent. Après être parvenu par son mérite à la place de professeur et avoir publié un livre qui avait commencé sa réputation d'une manière très avantageuse, il est devenu fou furieux et actuellement, s'il n'est pas mort, il est enchaîné dans un cachot sur la paille. Misérable espèce humaine, qu'est-ce que de nous et de nos espérances? Je vécus environ 18 mois à Édimbourg, m'amusant beaucoup, m'occupant assez, et ne faisant dire que du bien de moi. Le malheur voulut qu'un petit Italien, qui me donnait des leçons de musique, me fit connaître une banque de pharaon que tenait son frère. Je jouais, je perdis, je fis des dettes à droite et à gauche, et tout mon séjour fut gâté. Le temps que mon père avait fixé pour mon départ étant arrivé, je partis en promettant à mes créanciers de les payer, mais en les laissant fort mécontents, ayant donné contre moi des impressions très défavorables. Je passais par Londres, où je m'arrêtais fort inutilement 3 semaines, et j'arrivais à Paris dans le mois de mars 1785. Mon père avait fait pour moi un arrangement qui m'aurait valu des agréments de tout genre si j'avais su et voulu en profiter. Je devais loger chez M. Suard, qui réunissait chez lui beaucoup de gens de lettres et qui avait promis de m'introduire dans la meilleure société de Paris. Même mon appartement n'étant pas prêt, je débarquai dans un hôtel garni. J'y fis connaissance avec un Anglais fort riche et fort libertin. Je voulus l'imiter dans ses folies, et je n'avais pas été un mois à Paris que j'avais des dettes par-dessus la tête. Il y avait bien un peu de la faute de mon père, qui m'envoyait à 18 ans, sur ma bonne foi, dans un lieu où je ne pouvais manquer de faire faute sur faute. J'allais cependant à la fin loger chez M. Suard, et ma conduite devint moins extravagante. Mais les embarras dans lesquels je m'étais jeté en débutant eurent des suites qui influèrent sur tout mon séjour. Pour comble de malheur, mon père crut devoir me placer sous une surveillance quelconque et s'adressa pour cet effet à un ministre protestant, chapelain de l'ambassadeur de Hollande. Celui-ci crut faire merveille en lui recommandant un nommé Baumier qui s'était présenté à lui comme un protestant persécuté pour cause de religion par sa famille. Ce Baumier était un homme perdu de mœurs, sans fortune, sans asile, un véritable chevalier d'industrie de la plus mauvaise espèce. Il tâcha de s'emparer de moi, en se mettant de moitié dans toutes les sottises que je voulais faire, et il ne tint pas à lui que je n'adoptasse le genre de vie le plus dissolu et le plus abject. comme, indépendamment de tous ses vices, il était sans esprit, fort ennuyeux et très insolent, je me lassai bientôt d'un homme qui ne faisait que m'accompagner chez des filles et m'emprunter de l'argent, et nous nous brouillâmes. Il écrivit, je crois, à mon père, et il exagéra, je suppose, le mal qu'il avait à dire de moi, quoique la vérité fût déjà très suffisante. Mon père arriva lui-même à Paris et m'emmena à Bruxelles, où il me laissa pour retourner à son régiment. Je restai à Bruxelles depuis le mois d'août jusqu'à la fin de novembre, partageant mon temps entre les maisons d'Annette et d'Arenberg, anciennes connaissances de mon père et qui, en cette qualité, me firent un très bon accueil et une coterie de Genevois plus obscure, mais qui me devint bien plus agréable. Il y avait dans cette coterie une femme d'environ 26 à 28 ans, d'une figure fort séduisante et d'un esprit fort distingué. Je me sentais entraîné vers elle, sans me l'avouer bien clairement, lorsque, par quelques mots qui me surprirent, d'abord encore plus qu'ils ne me charmèrent, elle me laissa découvrir qu'elle m'aimait. Il y a, dans le moment où j'écris, 25 ans écoulés depuis le moment où je fis cette découverte, et j'éprouve encore un sentiment de reconnaissance en me retraçant le plaisir que j'en ressentis. Madame Johanneau, c'était son nom, s'est placée dans mon souvenir différemment de toutes les femmes que j'ai connues. Ma liaison avec elle a été bien courte et s'est réduite à bien peu de choses. Mais elle ne m'a fait acheter les sensations douces qu'elle m'a données par aucun mélange d'agitation ou de peine. Et à 44 ans, je lui sais encore gré du bonheur que je lui ai dû lorsque j'en avais 18. La pauvre femme a fini bien tristement. Mariée à un homme très méprisable, de caractère et de mœurs très corrompus, elle fut d'abord traînée par lui à Paris, où il se mit au service du parti qui dominait, devint, quoique étranger, membre de la Convention, condamna le roi à mort et continua jusqu'à la fin de cette trop célèbre assemblée à y jouer un rôle lâche et équivoque. Elle fut ensuite reléguée dans un village d'Alsace pour faire place à une maîtresse que son mari entretenait dans sa maison. Elle fut enfin rappelée à Paris pour y vivre avec cette maîtresse que son mari voulait l'obliger à servir, et les mauvais traitements dont il l'accabla la poussèrent à s'empoisonner. J'étais alors à Paris moi-même et je demeurais dans son voisinage. Mais j'ignorais qu'elle y fut, et elle est morte à quelques pas d'un homme qu'elle avait aimé et qui n'a jamais pu entendre prononcer son nom sans être ému jusqu'au fond de l'âme. Elle est morte, dis-je, se croyant oubliée et abandonnée de toute la terre. Il y avait à peine un mois que je jouissais de son amour, quand mon père vint me prendre pour me ramener en Suisse. Madame Johanneau et moi, nous nous écrivîmes de tristes et tendres lettres au moment de mon départ. Elle me donna une adresse sous laquelle elle consentit à ce que je continuasse à lui écrire. Mais elle ne me répondit pas. Je me consolais sans l'oublier, et l'on verra que bientôt d'autres objets prirent sa place. Je la revis 2 ans après, une seule fois à Paris, quelques années avant ses malheurs. Je me repris de goût pour elle. Je lui fis une seconde visite. Elle était partie. Lorsqu'on me le dit, j'éprouvais une émotion d'une nature tout à fait extraordinaire par sa tristesse et sa violence. Oh, c'était une sorte de pressentiment funeste que sa fin déplorable n'a que trop justifié. De retour en Suisse, je passai de nouveau quelque temps à la campagne étudiant d'un bâton rompu et m'occupant d'un ouvrage dont la première idée m'était venue à Bruxelles et qui depuis n'a jamais cessé d'avoir un grand attrait pour moi. C'était une histoire du polythéisme. Oh, je n'avais alors aucune des connaissances nécessaires pour écrire 4 lignes raisonnables sur un tel sujet. Nourri des principes de la philosophie du XVIIIe siècle et surtout des ouvrages d'Helvétius, je n'avais d'autre pensée que de contribuer pour ma part à la destruction de ce que j'appelais les préjugés. Je m'étais emparé d'une assertion de l'auteur de l'Esprit qui prétend que la religion païenne était de beaucoup préférable au christianisme. Et je voulais appuyer cette assertion que je n'avais ni approfondie ni examinée de quelques faits pris au hasard et de beaucoup d'épigrammes et de déclamations que je croyais neuves. Oh, si j'avais été moins paresseux et que je me fusse néanmoins abandonné à toutes les impressions qui m'agitaient, j'aurais peut-être achevé en 2 ans un très mauvais livre qui m'aurait fait une petite réputation éphémère dont j'eusse été bien satisfait. Une fois engagé par amour-propre, je n'aurais pu changer d'opinion et le premier paradoxe ainsi adopté m'aurait enchaîné pour toute ma vie. Si la paresse a des inconvénients, elle a bien aussi des avantages. Je ne me bornais pas longtemps à mener une vie paisible et studieuse. De nouvelles amours vinrent me distraire, et comme j'avais 3 ans de plus qu'à Erlangen, je fis aussi 3 fois plus de folie. L'objet de ma passion était une Anglaise d'environ 30 à 35 ans, femme de l'ambassadeur d'Angleterre à Turin. Elle avait été très belle et avait encore un très joli regard, des dents superbes et un charmant sourire. Sa maison était fort agréable, on y jouait beaucoup, de telle sorte que je trouvais à y contenter un goût plus vif encore que celui que la dame elle-même m'inspirait. Madame Trevor était extrêmement coquette et avait le petit esprit fin et maniéré que la coquetterie donne aux femmes qui n'en ont pas d'autres. Elle vivait assez mal avec son mari, dont elle était presque toujours séparée. Il y avait toujours à sa suite 5 ou 6 jeunes Anglais. Je commençais par me jeter dans sa société parce qu'elle était plus brillante et plus animée que toute autre à Lausanne. Ensuite, voyant que la plupart des jeunes gens qui l'entouraient lui faisait la cour, je me mis en tête de lui plaire. Je lui écrivis une belle lettre pour lui déclarer que j'étais amoureux d'elle. Je lui remis cette lettre un soir et retournai le lendemain pour recevoir sa réponse. L'agitation que me causait l'incertitude sur le résultat de ma démarche m'avait donné une sorte de fièvre qui ressemblait assez à la passion que d'abord je n'avais voulu que feindre. Madame Trevor me répondit par écrit, comme cela était indiqué dans la circonstance. Elle me parlait de ses liens et m'offrait la plus tendre amitié. Je n'eus pas m'arrêter à ce mot et voir jusqu'où cette amitié nous aurait conduits. Mais au lieu de cela, je crus adroit de montrer le plus violent désespoir de ce qu'elle ne m'offrait que de l'amitié en échange de mon amour. Et me voilà à me rouler par terre et à me frapper la tête contre la muraille sur ce malheureux mot d'amitié. La pauvre femme, qui probablement avait eu affaire à des gens plus avisés, ne savait comment se conduire dans cette scène, d'autant plus embarrassante pour elle que je ne faisais aucun mouvement qui la mît à même de la terminer d'une manière agréable pour tous les deux. Je me tenais toujours à 10 pas, et quand elle s'approchait de moi pour me calmer ou me consoler, je m'éloignais en lui répétant que puisqu'elle n'avait pour moi que de l'amitié, il ne me restait plus qu'à mourir. Elle ne put dire de moi autre chose pendant 4 heures. et je m'en allai, la laissant, je crois, très ennuyée d'un amant qui disputait sur un synonyme. Je passai de la sorte 3 ou 4 mois, devenant chaque jour plus amoureux, parce que je me butais chaque jour plus contre une difficulté que j'avais créée moi-même, et ramenée d'ailleurs chez Madame Trémor, au moins autant par mon goût pour le jeu que par mon ridicule amour. Madame Trévor se prêtait à la bizarrerie de mon manège avec une patience admirable. Elle répondait à toutes mes lettres, me recevait chez elle tête à tête et me gardait jusqu'à 3 heures du matin. Mais elle n'y gagna rien, ni moi non plus. J'étais d'une timidité excessive et d'un emportement frénétique. Je ne savais pas encore qu'il fallait prendre au lieu de demander. Et je demandais toujours, et je ne prenais jamais. Madame de Trévor dut me trouver un amant d'une singulière espèce. Mais comme les femmes aiment toujours tout ce qui prouve qu'elles sont propres à inspirer une grande passion, elle s'accommoda de mes manières et ne m'en reçut pas plus mal. Je devins jaloux d'un Anglais qui ne se souciait pas le moins du monde de Madame Trévor. Je voulus le forcer à se battre avec moi. Il crut m'apaiser en me déclarant que loin d'aller sur mes brisées, il ne trouvait pas même Madame Trévor agréable. Je voulus alors me battre avec lui parce qu'il ne rendait pas justice à la femme que j'aimais. Nos pistolets étaient déjà chargés. Lorsque mon Anglais, qui n'avait aucune envie d'un duel aussi ridicule, s'en tira fort adroitement. Il voulut des seconds et m'annonça qu'il leur dirait pourquoi je lui avais cherché querelle. J'eus beau lui représenter qu'il devait me garder un pareil secret. Il se moqua de moi et je dus renoncer à ma brillante entreprise pour ne pas compromettre la dame de mes pensées. L'hiver étant venu, mon père me dit de me préparer et de le suivre à Paris. Mon désespoir fut sans bornes. Madame Trévor y parut très sensible. Je la pris souvent dans mes bras, j'arrosais ses mains de mes larmes. J'allais passer des nuits à pleurer sur un banc où je l'avais vue assise. Elle pleurait avec moi. Si j'avais voulu le plus disputer sur les mots, j'aurais peut-être eu des succès plus complets, mais tout se borna à un chaste baiser sur des lèvres tant soit peu fanées. Je partis enfin dans un état de douleur inexprimable. Madame Trévor me promit de m'écrire et on m'emmena. Ma souffrance était tellement visible qu'encore 2 jours après, un de mes cousins qui voyageait avec nous voulut proposer à mon père de me renvoyer en Suisse, persuadé qu'il était que je ne soutiendrais pas le voyage. Enfin, je le soutins et nous arrivâmes. Je trouvai une lettre de Madame de Trévor. La lettre était froide, mais je lui sus gré de m'avoir tenu sa promesse. Je répondis dans le langage de l'amour le plus passionné. J'obtins une seconde lettre un peu plus insignifiante que la première. De mon côté, je me refroidis pendant que mes lettres couraient la poste. Je n'écrivis plus et notre liaison finit. Je revis pourtant Madame de Trévor à Paris 3 mois après. Je n'éprouvai aucune émotion. Je crois que la sienne ne fut causée que par la surprise de voir en moi un détachement aussi complet. La pauvre femme continua encore quelques années son métier de coquette et se donna beaucoup de ridicule, puis elle retourna en Angleterre où elle devint, m'a-t-on dit, à peu près folle d'attaque de nerfs. Ces premiers mois de mon séjour à Paris furent très agréables. Je fus parfaitement reçu par la société de Monsieur Suard, chez qui j'allais demeurer de nouveau. Mon esprit, qui manquait alors tout à fait de solidité et de justesse, mais qui avait une tournure épigrammatique très amusante, mes connaissances qui, bien que fort décousues, étaient supérieures à celles de la plupart des gens de lettres de la génération qui s'élevait, l'originalité de mon caractère, tout cela parut piquant. Je fus fêté par toutes les femmes de la coterie de Madame Suard, et les hommes pardonnèrent à mon âge une impertinence qui n'était pas dans les manières mais dans les jugements, étant moins aperçue et moins offensante. Cependant, quand je me souviens de ce que je disais alors et du dédain raisonné que je témoignais à tout le monde, je suis encore à concevoir comment on a pu le tolérer. Je me rappelle qu'un jour, rencontrant un des hommes de notre société qui avait 30 ans de plus que moi, je me mis à causer avec lui, et ma conversation roula, comme à l'ordinaire, sur les ridicules de tout ce que nous voyions tous les jours. Après m'être bien moqué de chacun l'un après l'autre, je pris tout à coup celui avec lequel j'avais causé par la main, et je lui dis, « Je vous ai bien fait rire aux dépens de tous nos amis. Oh, mais n'allez pas croire, parce que je me suis moqué d'eux avec vous, je suis tenu à ne pas me moquer de vous avec eux. Je vous avertis que nous n'avons point fait ce traité. » Le jeu qui m'avait déjà causé tant de peine et qui m'en a tant causé depuis vint troubler ma vie et gâter tout ce que la bonté de mon père avait fait pour moi. J'avais connu en Suisse, chez Madame Trévor, une vieille Française, Madame de Bourbonne, joueuse à l'excès, d'ailleurs bonne femme et assez originale. Elle jouait en voiture, elle jouait au lit, elle jouait au bain, le matin, la nuit, le soir, toujours et partout quand elle le pouvait. J'allais la voir à Paris, elle y avait tous les jours un 15 et je m'empressais d'en être. J'y perdais régulièrement tout ce que j'apportais, et j'y apportais tout ce qu'on me payait par ordre de mon père et tout ce que je pouvais emprunter, ce qui heureusement n'était pas très considérable, quoique je ne négligeasse aucun moyen de faire des dettes. Il m'arriva à ce sujet une aventure assez plaisante avec une des plus vieilles femmes de la société de Madame Suard. C'était Madame Saurin, femme de Saurin le philosophe et l'auteur de Spartacus. Elle avait été fort belle et s'en souvenait toute seule, car elle avait 65 ans. Elle m'avait témoigné beaucoup d'amitié et, bien que j'eusse le tort de me moquer un peu d'elle, j'avais en elle plus de confiance qu'en toute autre personne à Paris. Un jour, je venais de perdre chez Madame de Bourbonne tout l'argent que j'avais et tout ce que j'avais pu jouer sur parole. Embarrassé de payer, je m'avisais de recourir à Madame Saurin, jour qu'elle me prêtait, qui manquait. Mais, désapprouvant moi-même la démarche que je faisais, je lui écrivis au lieu de lui en parler, et je lui fis dire que je viendrais prendre sa réponse dans l'après-midi. J'y fus en effet. Je la trouvai seule. Ma timidité naturelle, augmentée par la circonstance, fit que j'attendis longtemps qu'elle me parlât de mon billet. Enfin, comme elle ne m'en disait pas un mot, je me déterminai à rompre le silence et je commençai en rougissant, en baissant les yeux et d'une voix fort émue. « Vous serez peut-être étonné, lui dis-je, de la démarche que je fais. Bon, je serais bien fâché de vous avoir donné contre moi des impressions défavorables par une chose que je ne vous aurais pas confiée si votre affection si douce pour moi ne m'y avait encouragé. L'aveu que je vous ai fait et dont votre silence me fait craindre que vous ne soyez blessé, m'a été arraché par un mouvement irrésistible de confiance en vous. Je disais tout cela en m'arrêtant à chaque mot et sans regarder Madame Saurin. Comme pourtant elle ne répondait point, je levai les yeux et je vis par son air de surprise qu'elle ne concevait rien à ma harangue. Je lui demandai si elle n'avait pas reçu ma lettre. Il se trouva que non. Me voilà bien plus interdit, et j'aurais volontiers repris toutes mes paroles, sauf à trouver d'autres moyens de sortir de l'embarras où je me trouvais. Mais il n'y avait plus de ressources, il fallait achever. Je repris donc. Oui, vous avez été si bonne pour moi, vous m'avez témoigné tant d'intérêt. Peut-être en ai-je trop présumé, mais il y a des moments où la tête d'un homme se perd. Je ne me consolerai jamais si j'avais porté atteinte à votre amitié. Permettez-moi de ne plus vous parler de cette malheureuse lettre. Laissez-moi vous cacher ce qui m'était échappé que dans un moment de trouble. Mais non, non, me dit-elle, pourquoi doutez-vous de mon cœur? Je veux tout savoir, achevez, achevez. Et elle couvrit de ses mains son visage, et elle tremblait de tout son corps. Je vis clairement qu'elle avait pris tout ce que je venais de lui dire pour une déclaration d'amour. Ce quiproquo, son émotion et un grand lit de damas rouge qui était à deux pas de nous, me jetèrent dans une inexprimable terreur. Mais je devins furieux comme un poltron révolté, et je me hâtai de dissiper l'équivoque. Au fond, lui dis-je, je ne sais pas pourquoi je vous ennuie si longtemps d'une chose fort peu importante. Oui, j'ai eu la sottise de jouer. J'ai perdu un peu plus que je n'ai en ce moment. Et je vous ai écrit pour savoir si vous pourriez me rendre le service de me prêter ce qui me manque pour m'acquitter. Madame Saurin resta immobile. Ses mains descendirent de son visage qu'il n'était plus nécessaire de couvrir. Elle se leva sans mot dire et me conta l'argent que je lui avais demandé. Nous étions si confondus, elle et moi, que tout se passa en silence. Je n'ouvris même pas la bouche pour la remercier.